Le journal, Sébastien Paour, bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Il se félicitait que les faits soient prescrits grâce à Dieu. Le voilà condamné pour son silence. 6 mois de prison avec sursis pour le cardinal Barbarin pour n'avoir rien dit des abus sexuels du père Prénat. L'archevêque de Lyon fait appel et démissionne. Un peu tard, regrettent les victimes. Vous les entendrez. Et nous serons à Rome où le pape a déjà refusé la démission de Philippe Barbarin il y a 2 ans. Difficile de concilier vie privée et vie professionnelle quand on est femme médecin. Étude à l'hôpital public à l'occasion demain de la journée internationale des droits des femmes. L'armée veut plus de femmes officiers dans ses rangs. Au sommaire également ce soir, un message du président algérien contre le risque de chaos. Avocats et journalistes étaient encore dans la rue aujourd'hui contre sa candidature à la présidentielle. Les supporters de l'OM ravis de l'élimination du PSG en Ligue des Champions hier soir. Et au téléphone sonne Pierre donc.
La situation dans les EHPAD, les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Il y aura ce soir pour vous répondre un ancien directeur d'EHPAD, Jean Arcelin. Il décrit son expérience dans un livre qui vient de paraître aux éditions XO Documents. Et Frédéric Pommier qui a publié aux éditions de l'Équateur Suzanne. Il raconte ce qu'a vécu sa grand-mère dans un EHPAD, le sort des résidents, l'attitude des familles, les difficultés de gestion. Vos témoignages au 01 45 24 7000.
C'est le 3e évêque condamné pour son silence sur les abus sexuels en France, après celui de Bayeux-Lisieux en 2001, celui d'Orléans en décembre. L'archevêque de Lyon, Philippe Barbarin, est donc à son tour reconnu coupable. 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les agressions pédophiles commises par un prêtre de son diocèse. Le cardinal Barbarin fait appel et démissionne.
Je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours.
Voilà pour la très brève déclaration du cardinal Barbarin ce midi au micro de Christophe Vincent. On sera à Rome dans un instant, mais d'abord, que disent les victimes de cette démission? François Deveau est l'un des plaignants et le cofondateur de l'association La Parole Libérée.
Je crois que c'est la décision qu'il fallait prendre. Elle est, je crois, malheureusement, trop tardive. Je crois que c'est problématique pour l'Église, cette décision tardive, parce que celle-ci prétend répondre à une justice divine. Elle prétend être garant d'une bonne morale. Et cette décision arrive après, directement en rapport avec la décision de la justice des hommes, la justice républicaine. Donc je crois que c'est un problème pour cette institution, parce que elle perd le sens premier de sa démarche. On se demandait juste combien de temps ça allait prendre pour en arriver là. Il faut une pression assez incroyable de la société laïque pour que cette institution soit contrainte de prendre ses responsabilités.
L'association La Parole Libérée salue aussi une grande victoire pour la protection de l'enfance. Bonsoir Jean-Philippe Deniaud.
Bonsoir Sébastien.
Vous rentrez de Lyon, Jean-Philippe, où vous avez assisté à la lecture du jugement. Jugement très sévère contre celui qui disait au début de l'affaire que grâce à Dieu, les faits étaient prescrits.
Oui, et si le tribunal fait le tri entre les faits effectivement prescrits et les autres, d'emblée, il balaye un argument juridique développé pourtant depuis 3 ans par le parquet de Lyon et par la défense du cardinal. La non-dénonciation de crimes ne se limite pas à vérifier si l'archevêque a tenté de dissuader les victimes d'aller porter plainte. Le simple fait que Philippe Barbarin n'ait pas transmis à la justice ce qu'il savait depuis 2010 suffit à établir ce délit de non-dénonciation. Il ne l'a pas fait. C'est regrettable, écrit le tribunal. L'archevêque a joué l'inertie pour éviter le scandale public. Il a pris le risque d'empêcher la justice de faire son travail, c'est-à-dire d'aller rechercher des victimes du père Prénat avant que les faits ne soient prescrits. Mais pour la défense du cardinal Barbarin, ce n'était pas à l'archevêque d'aller porter plainte à la place de ces hommes qui étaient en totale capacité de le faire eux-mêmes. C'est ce que maintient Maître André Soulier.
On vient dire qu'il fallait courir chez le procureur de la République pour le dénoncer, alors même qu'il pouvait porter plainte lui-même puisqu'il est majeur. Il s'agit de savoir si à partir de 40 ans, vous êtes en pleine possession de vos moyens pour vous plaindre d'un acte dont vous avez été victime quand on vous le dit.
Le cardinal Barbarin va donc faire appel de ce jugement, mais qu'importe pour les victimes du père Prénat et leurs avocats, cette condamnation marquera l'histoire, maître Yves Sauvert.
Au niveau du symbole, on a quelque chose qui est un tournant par rapport au combat de ces gens qui se sont tus pendant des années et qui, aujourd'hui, par cette décision, vont pouvoir dire à ces gens qui abusent de leur fonction, attention, parce que vous allez forcément un jour ou l'autre rendre des comptes.
Le procès en appel du cardinal se déroulera dans environ un an, mais certainement après le procès du père Prénat, qui devrait comparaître avant la fin de l'année à Lyon pour atteinte sexuelle sur mineur.
Philippe Barbarin fait donc appel. Merci Jean-Philippe Dogneau, tout en allant remettre sa démission au pape. Bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir à tous.
Correspondante de France Inter à Rome. Mathilde, quels sont les scénarios possibles de cette audience à venir au Vatican ?
Eh bien, le pape peut tout à fait refuser cette démission, comme il l'a fait en 2016, lorsque le cardinal Barbarin avait envisagé de renoncer au tout début de l'affaire. Il est plus probable qu'il l'accepte et que le diocèse de Lyon soit géré par un autre responsable. Le prélat lyonnais pourrait néanmoins rester cardinal, car les deux titres, évêque et cardinal, sont tout à fait distincts. Dans quel état d'esprit se trouve le pape ce soir par rapport à cette affaire ? Le Vatican ne laisse rien filtrer, pas le moindre communiqué. On s'en tient donc à la déclaration du cardinal Barbarin qui annonce sa venue à Rome dans les prochains jours. Le contexte au Vatican, vous le savez, est à la tolérance zéro, un principe répété devant les évêques du monde entier lors d'un sommet extraordinaire sur la pédophilie il y a 2 semaines. Le pape a redit que l'Église devait sanctionner les responsables des abus et de la couverture de ces abus. Il a pris récemment des décisions fortes à cet égard. Il a notamment réduit à l'état laïque un cardinal américain, McCarrick, accusé d'agression directe sur mineurs, un cas bien sûr très différent du cas lyonnais. Quelle que soit la décision du pape François, elle est difficile à prendre. L'archevêque de Lyon et lui se connaissent bien. Ils sont tous les deux cardinaux depuis une quinzaine d'années. Ils ont traversé 2 conclaves ensemble. Le pape François jusqu'ici a toujours défendu le cardinal Barbarin, mais c'était avant le jugement sévère de la justice française.
On verra ce qu'il en sera dans les prochains jours. Merci Mathilde Imberti en direct de Rome et vous trouverez sur 12 dossiers Barbarin Prénat en détail sur franceinter.fr.
Sébastien, c'est demain la journée internationale pour les droits des femmes.
Et on s'arrête ce soir sur les femmes à l'hôpital avec cette étude dévoilée aujourd'hui qui dresse un tableau peu reluisant des conditions des femmes médecins et notamment Lisa Guyenne de leurs difficultés à concilier vie professionnelle et vie de famille.
À 33 ans, Linda est anesthésiste réanimatrice dans un grand hôpital public. Elle est aussi maman depuis 2 ans. Elle se souvient des réflexions de ses supérieurs lorsqu'elle était enceinte.
J'ai toujours été quelqu'un qui travaille énormément. Je finissais 21h30, 22h très 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 régulièrement. Et c'est vrai qu'avec la grossesse, j'ai un peu levé le pied, entre guillemets, et je sortais à 19h30, 20h. Mais ça, ça a été vécu de la part de mes chefs, surtout, comme un désinvestissement du service, et ils ne l'ont pas apprécié, ça c'est certain. Quand on a déjà la culpabilité inscrite en nous, en fait, ça joue sur le moral.
Culpabilité qui pousse carrément certaines femmes à renoncer à leur vie de famille. Nicole Smolski est présidente d'honneur du syndicat à l'origine de cette enquête.
Il y a de plus en plus de jeunes femmes médecins par rapport à avant, mais ça n'a pas été anticipé ni organisé. La moitié des femmes travaillent plus de 50 heures par semaine. Les jeunes femmes font une garde et ou une astreinte par semaine. C'est vrai que c'est difficile de mener ça avec le fait de beaucoup s'occuper des enfants. Il y a beaucoup d'autocensure des femmes qui se disent que pour arriver à avoir une carrière professionnelle, il faut sacrifier sa vie familiale.
Et le chemin vers l'égalité est encore long. Aujourd'hui, 7 femmes médecins sur 10 estiment que leur carrière aurait été différente si elles avaient été des hommes.
Les femmes, cette fois dans l'armée, avec le plan pour plus de mixité présenté aujourd'hui. La France possède l'une des armées les plus féminisées au monde, avec un peu plus de 15% de femmes, ce qui la place au 4e rang mondial. Mais la ministre veut aller plus loin, Nathalie Hernandez, et pour cela, les inciter les femmes à s'engager, les fidéliser et les valoriser.
Pour la ministre des Armées, Florence Parly, les compétences doivent toujours l'emporter pour assurer la protection des Français. Mais ces compétences ne sont pas suffisamment reconnues quand le militaire est une femme. Aujourd'hui, seuls 8% des 32 000 femmes sous les drapeaux sont déployées en opération extérieure et à peine 7% d'entre elles deviennent des officiers généraux. En cause notamment les contraintes de vie de famille et une sélection trop stricte. Tout ça sera assoupli, explique l'amiral Anne de Mazieux, seule amiral d'active dans la marine. C'est elle qui a rédigé ce plan mixité.
Lorsque quelqu'un n'a pas franchi la bonne haie au bon moment, il est éliminé du parcours. Eh bien, il s'agit de mettre en œuvre un certain nombre de mesures, qu'il y ait plus de possibilités pour faire garder ses enfants, de faciliter l'accès à des concours, de faire en sorte que, au moment où on passe ces concours, entre l'écrit et l'oral, on puisse garder certains acquis pour que nous puissions faciliter justement cet équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale.
La limite d'âge pour passer ces concours sera également supprimée. Objectif à atteindre, 10% de femmes officiers généraux d'ici à 2022.
Et vous trouverez sur franceinter.fr un état des lieux de la situation des femmes dans le monde. Elles subissent plus la pauvreté, le chômage et les violences que les hommes. Et de 10, une dixième participation au grand débat pour Emmanuel Macron à une semaine de son terme. C'était aujourd'hui dans la salle des fêtes d'un village des Alpes de Haute-Provence, la station thermale de Gréousse-les-Bains dans le parc naturel du Verdon. Et pour parler de transition écologique, un domaine, Laurence Perron, où le président veut aller plus fort et plus vite.
Le modèle du grand débat macronien aurait-il vécu? La méthode, un stand-up de plus de 5 heures, avec salve de questions et un grand oral du président en boomerang, semble s'épuiser. Certes, les expressions sont libres, c'est souvent vif.
Le mouvement des Gilets jaunes que nous soutenons, qui, alors que nous les oublions quelque peu enfermés dans cette salle, sont certainement en train de se faire réprimer. Il y a une certaine hypocrisie à parler d'écologie sans transformer profondément notre système. Votre gouvernement défend un modèle néolibéral et capitaliste. Ce n'est pas compatible avec le maintien des petits paysans.
Parfois mignon.
Moi, sixième, je voudrais savoir de quoi vous voulez dire en tant que transition écologique.
Mais en réalité, chaque réponse fournit au président une occasion de légitimer son action.
Moi, si je dis par exemple, demain en France, plus un pesticide, c'est impossible. Je peux pas seul dire c'est 0 ou 100 du jour au lendemain.
Très à l'aise dans l'exercice, il n'hésite pas à s'emporter.
Le jour où vous serez attaqué par quelqu'un, le jour où un terroriste viendra peut-être, ce que je ne vous souhaite pas, vous appellerez qui? Vous n'appellerez pas ceux que vous êtes en train de défendre. Vous appellerez un policier ou un gendarme. Et ce distinguo, faut pas l'oublier.
Attentez aussi.
Si vous commencez à papoter entre vous, on va pas y arriver. Vous avez été très sage jusqu'alors.
Mais au final, que ce soit sur le loup, la restauration de l'aide au bio, la baisse de la dotation globale de fonctionnement ou encore l'ébauche d'une fiscalité écologique, chacun repart un peu sur sa faim.
Laurence Perron à Gréousse-les-Bains, dans les Alpes de Haute-Provence. Plusieurs prisons encore bloquées une partie de la journée, toujours pour protester contre l'agression de deux gardiens. Mardi à Condé-sur-Sarthe, qui est la seule où la mobilisation tient encore ce soir. Les surveillants réclament davantage de moyens et de meilleures conditions de sécurité. Toujours de gros bouchons à Calais et Dunkerque à cause de la grève du zèle illimité des douaniers français qui demandent des moyens aussi en vue du Brexit. Jusqu'à 2 heures de retard également sur les trains Eurostar. Les syndicats de douaniers seront reçus mardi par Gérald Darmanin à Bercy.
19h12, le journal Sébastien Paour. Les Algériens, Sébastien, toujours dans la rue contre un cinquième mandat de leur président.
Oui, après les étudiants, ce sont les avocats et les journalistes qui se sont mobilisés aujourd'hui. Un millier de robes noires devant le Conseil constitutionnel à Alger pour réclamer l'invalidation de cette cinquième candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Et des journalistes, place de la liberté de la presse, pour dénoncer eux les pressions dont ils sont victimes dans leur couverture de la contestation. Tout cela dans une ville où les manifestations sont officiellement interdites depuis 2001. Et alors que l'agence officielle algérienne diffuse un message du président Bouteflika, un appel Lelay Birato à la vigilance contre le risque de chaos.
C'est un message de la présidence qui a été transmis à l'agence officielle de presse. Le message se félicite de la maturité des manifestants et du pluralisme démocratique que ce mouvement prouve, selon la présidence. Mais le texte évoque la période de terrorisme et souligne qu'il faut être vigilant et prudent, je cite, quant à une éventuelle infiltration de ces manifestations par une partie externe qui pourrait, je cite à nouveau, susciter la division et provoquer le chaos. La présidence écrit enfin qu'elle exhorte les maires à veiller à la préservation de l'Algérie. Ce n'est pas la première fois que les autorités font référence à la violence des années 90 face à ce mouvement de protestation inédit et face à l'ampleur que prennent les manifestations. C'était d'ailleurs le sens des derniers messages de l'armée, mais aussi du Premier ministre, qui, en évoquant le fait que les manifestants tendaient des fleurs aux forces de l'ordre, avait ajouté « En Syrie aussi, ça a commencé avec des fleurs ».
Leïla Berato à Alger pour Inter. Le directeur de campagne de Abdelaziz Bouteflika assure de son côté que le président va bien et que les examens qu'il subit depuis plus de 10 jours en Suisse seront bientôt terminés. Eux sortent avec leurs enfants dans les bras, leurs baluchons sur le dos, les survivants de Baghouz, dernier morceau d'enfer du groupe État islamique en Syrie. Hommes, femmes et enfants, toujours aussi nombreux à quitter ce village de l'est du pays à la frontière avec l'Irak. Les forces démocratiques syriennes ralentissent leurs opérations militaires pour permettre ces évacuations. Mais le combat n'est pas encore terminé. Au contraire, pour le général Joseph Votel, chef des forces américaines au Moyen-Orient, il l'a dit tout à l'heure devant une commission du Congrès à Washington.
La réduction du califat sur le terrain est une réussite militaire monumentale, mais le combat contre l'État islamique et l'extrémisme est loin d'être terminé. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce n'est pas la capitulation de l'État islamique en tant qu'organisation, c'est en fait une décision calculée des djihadistes pour préserver la sécurité de leur famille et conserver leur capacité en saisissant la chance qu'offrent les camps de déplacés ou en se cachant dans des zones reculées pour attendre le bon moment avant de revenir. Les observations récentes de nos hommes et femmes sur le terrain montrent que cette population évacuée des derniers vestiges du califat compte encore des membres largement impénitents, résolus et radicalisés. Nous devrons rester vigilants face à cette organisation, certes dispersée aujourd'hui, mais qui compte encore des dirigeants, des combattants, des ressources et bien sûr leur idéologie meurtrière.
Et puis Donald Trump paye-t-il l'échec de son sommet avec Kim Jong-un? En tout cas, les experts américains sont formels sur la base d'images satellites. Pyongyang a reconstruit son site de lancement de fusées, celui que la Corée du Nord avait commencé à démanteler quand les deux hommes entamaient leur rapprochement. L'Europe regrette l'expulsion de l'ambassadeur allemand du Venezuela. Bruxelles espère que la décision de l'équipe Maduro sera réexaminée. Le représentant de Berlin à Caracas a été l'un des ambassadeurs occidentaux à accueillir l'opposant Juan Guaido. Il est accusé d'ingérence dans les affaires vénézuéliennes. Et le gouvernement Maduro lui a donné 48 heures pour quitter le pays. Viktor Orban, poussé lui vers la sortie par son propre camp, un quotidien hongrois considéré comme favorable au Premier ministre, lui demande de quitter de lui-même le Parti populaire européen. Orban est menacé d'exclusion du PPE en raison de ses positions anti-Bruxelles.
Le pronostic de la BCE, encore un peu plus sombre en zone euro.
La Banque Centrale Européenne baisse ses prévisions de croissance et d'inflation pour cette année et jusqu'en 2021, 1,1% de croissance pour l'ensemble de la zone en 2019, un 6 l'an prochain alors qu'elle tablait sur un 7 en décembre sur ces deux années, 1,2 pour l'inflation cette année contre 1,6% lors des dernières prévisions. À la page éco, encore le bilan du crédit impôt recherche réformé il y a 10 ans, deuxième dépense fiscale de l'État derrière le CICE, plus de 6 milliards d'euros. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Il prouve de plus en plus son efficacité d'après France Stratégie, le centre de réflexion rattaché à Matignon.
Oui, ce crédit d'impôt qui bénéficie aux entreprises en recherche et développement est-il réellement utile? Le débat revient souvent sur la table à chaque fois à l'automne. Lorsqu'il s'agit de trancher les questions budgétaires, c'est que le coût pour l'État est non négligeable, 6 milliards d'euros, vous l'avez dit. Alors autant que cet argent soit efficace, il l'est, selon le think tank de Matignon, qui s'appuie sur non pas une, ni deux, mais trois études qui vont dans le même sens et qui affirment notamment que l'élargissement de la mesure en 2008 sous Nicolas Sarkozy a permis aux entreprises d'augmenter de manière significative leurs investissements, et ce malgré la crise passée par là. Ces résultats vont tout de même à l'encontre, il faut bien le dire, de la Commission européenne, laquelle estime que les aides financières de la France, aussi conséquentes soient-elles, n'ont proportionnellement que peu d'effet sur l'innovation. Les dépenses en R&D chez nous restent moins importantes que la moyenne de l'OCDE.
Maxime Debs, en football, c'est un nouvel accident industriel pour le très riche PSG, éliminé une nouvelle fois hier soir en huitième de finale de la Ligue des Champions, cette fois par Manchester United. Le club parisien qui s'efface malgré ses stars, de quoi faire très plaisir Isabelle Dore chez le rival marseillais.
Dans ce bar de quartier, le patron célèbre à sa manière la défaite du PSG.
Il y a une buste avec le drapeau du PSG et une petite ardoise.
Qu'est-ce que vous écrivez sur l'ardoise?
On va écrire Romantada. Romantada avec le maillot de ces travelots de Parisien. Ah, je suis ravi. Je fais l'apéro toute la journée maintenant. Je préfère ça qu'une victoire de l'OM. Ils sont passés pour des connes toute la phrase. Ça m'a éclairé la journée. Hier, en plus, c'était mon anniversaire. C'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait.
Dans la salle, des clients trinquent à l'humiliation des Parisiens.
Ça a rendu un peuple heureux.
C'est quand même la France qui perd avec le PSG.
C'est pas grave. Je préfère que la France perde à ce niveau-là. Je préfère que ça soit les Anglais qui gagnent plutôt que ça soit le PSG, ouais.
La défaite du PSG nous fait énormément plaisir. On est d'abord Marseillais, ensuite on est Français. Nous, on l'a gagné, c'est la Coupe d'Europe, la Coupe aux grandes oreilles, la vraie.
Franchement, je suis vraiment content que le PSG, ils ont perdu, parce que nous, on a l'étoile et ils l'ont pas.
On est content. Les Parisiens, c'est normal qu'ils perdent. Alors.
Certains, minoritaires, il faut le reconnaître, déplorent cependant la défaite du PSG.
J'estime que malheureusement, pour le football français, c'est pas une bonne chose.
J'aurais préféré qu'ils gagnent. Je suis triste pour eux, mais ils sont ridicules une fois de plus, quoi.
Mais le mot de la fin est le même pour tous.
Allez l'OM, voilà, c'est ce que j'ai à dire.
Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
L'OM seul, club français à avoir gagné l'équivalent de la Ligue des Champions, c'était en 93. Ils étaient au aussi finaliste l'an dernier de la Ligue Europa, où Rennes reçoit Arsenal en ce moment en huitième de finale aller. Les Anglais mènent 1-0 après 24 minutes de jeu, Pierre.
C'était le journal de Sébastien Paour. La météo.
La météo, avec Préfonds, la retraite et la prévoyance de la fonction publique. Les jeunes fonctionnaires font le bon calcul sur préfonds-retraite.fr.
Les couleurs du ciel avec Élodie Calac. Élodie, de nouvelles pluies demain.
Et oui, elles arrivent dès ce soir par la Nouvelle-Aquitaine. Demain matin, on les retrouvera du sud-ouest vers le Massif central, le Lyonnais, le nord-est. Ce sera de la neige en montagne. L'après-midi, ça s'éclaircira un petit peu sur ces régions, mais il restera des averses. Sur le sud-est, vous serez plus gâtés. Du soleil parfois voilé le matin, mais plus franc l'après-midi. Entre le nord-ouest, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, le centre, la région parisienne, le nord de la Seine et Champagne-Ardenne, ce sera encore changeant, des éclaircies, des nuages qui deviendront plus nombreux, ces nuages, sur le nord-ouest au fil des heures, annonçant de nouvelles pluies sur la Bretagne pour l'après-midi.
Et il fera plus frais le matin.
Exactement, 1 à 6 degrés, le plus souvent, un petit peu plus quand même en allant en bord de mer. L'après-midi, un petit peu comme aujourd'hui, avec 11 degrés à Brest, 12 à Lille, 13 à Paris, à Mulhouse, à Bourges, 15 degrés à Bordeaux ou à Grenoble, 17 pour Montpellier et 19 à Nice.
Merci Élodie Calac.